Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président, Jean-Marc Torollion.
Radio-imo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle tribune du mois de mai. Nous sommes le 10 mai, 9h30. Nous sommes ici avec Jean-Marc Torollion pour cette tribune du mois de mai. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Sylvain.
Jean-Marc, président de la FNIM, tribune Passion Logement, on va dire Passion Logement chevillée au corps, surtout avec l'annonce effectivement de cette période électorale. On espère que la politique du logement sera au cœur du débat.
On l'espère en tout cas qu'elle n'en soit pas l'otage. Mais véritablement que ça soit constructif.
Alors, on a pas mal de sujets, Jean-Marc Torollion, et je voudrais qu'on revienne sur le sujet. On peut dire que c'est un scoop, en tout cas c'est une initiative tout à fait originale. Vous avez fait une lettre ouverte. Lettre ouverte à Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, régulateurs et opérateurs, les SAFER ne peuvent pas être juges et parties. Je rappelle, les SAFER, sociétés d'aménagement foncier et établissements ruraux, ont été créées dans les années 60 avec un but: améliorer les structures agraires, accroître la superficie de certaines exploitations agricoles et faciliter la mise en culture du sol, de l'installation d'agriculteurs à la terre. Alors c'est un partenariat que vous avez noué aussi avec l'UNPI. Expliquez-nous pourquoi vous avez fait cette lettre ouverte et en quoi finalement il y a une singularité dans ce partenariat que vous avez effectué. C'est une première.
Alors ce partenariat, nous l'avons également effectué avec la Fédération nationale des propriétaires ruraux de France. Et c'est important que de le dire parce que c'est 80% des terres agricoles. D'aucuns pourraient se dire, mais que fait la FNIM dans cette affaire ?
On pourrait se poser la question.
Je rappelle que notre objet, c'est de lutter contre toute forme de concurrence déloyale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la SAFER, parce que nous avons des confrères extrêmement bien implantés en matière de transactions forestières et rurales, c'est une particularité que les gens peut-être connaissent peu, mais nous avons évidemment une grande activité sur ce secteur-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, la SAFER est sortie de son rôle. Et que, bénéficiant de prérogatives de puissance publique et d'avantages fiscaux, elle tend de plus en plus à faire notre métier de transactionnaire et à faire une intermédiation qui coûte à l'État et une intermédiation qui sort un petit peu de son objet. Et quand on regarde le site des SAFER, propriétaires rurales, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de biens qui sont très singuliers et qui sont des maisons de campagne. Alors, en réalité, si je pose le débat comme ça, c'est un peu manichéen. Au fond, nous, notre souci, il est quoi ? Et c'est pour ça que nous sommes finalement des fédérations soucieuses de la propriété privée à signer cet appel. Il est de dire, il ne s'agit pas ici de remettre en cause le périmètre de régulation que la SAFER a depuis très longtemps. Il s'agit simplement de le dissocier d'une activité commerciale. Par ailleurs, et en fait, on vise un projet de loi, qui est un projet de loi sur le foncier agricole, de s'en passe tout, on s'aperçoit que le pouvoir de contrôle de la SAFER devient de plus en plus important, y compris dans le cadre de cessions familiales, et c'est extrêmement choquant. Donc, la Cour des comptes avait déjà alerté sur quelque chose d'anormal, au fond, dans le fonctionnement de la SAFER. Elle doit avoir son financement propre. Son financement ne doit pas dépendre d'une activité concurrentielle. Elle ne doit pas dépendre du fait de sacrifier les finances des départements à l'aune de l'exonération d'une taxe d'enregistrement si on passe par la SAFER, alors qu'on n'en bénéficie pas si on ne passe pas par la SAFER. Et elle doit se cantonner à son rôle de régulation en dehors de toute activité que je qualifierais presque du coup d'officine et non pas de régulateur.
Mais quand je vous écoute, Jean-Marc Torollion, on a l'impression que c'est presque une concurrence déloyale. Le mot est un peu fort ou pas ?
Non, nous l'avons dit, c'est une concurrence déloyale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où
Il faut quand même rappeler que la SAFER est un établissement public ou parapublic.
Non, c'est une société de droit privé.
De droit privé ?
À but non lucratif.
Oui, mais détenue par qui ? Contrôlée par qui ?
Elle est contrôlée essentiellement par le monde agricole.
Donc, c'est quoi ? C'est une gestion paritaire ? C'est une gestion collective ?
Non, c'est une gestion sous forme associative par des syndicats agricoles, par un certain nombre d'acteurs agricoles. Voilà. Mais encore une fois, quand elle a été conçue dans les années 60, il s'agissait de faire du remembrement agricole.
Absolument.
Et il s'agissait en fait de doter la France d'une vraie politique de foncier agricole pour permettre la viabilité des exploitations agricoles.
Parce que ce que vous dites finalement, c'est que la SAFER fait de la transaction immobilière.
Ouais. Nous sommes en 2021. Je ne crois pas que l'objet soit aussi important. Je crois que, alors, il y a effectivement le fait de dire qu'il faut lutter contre la mainmise des terres par les étrangers. On a cité en exemple 3 achats de 1700 hectares par des Chinois. Mais souvenons-nous qu'également, la SAFER a fait des prospectus en chinois, passé un temps, pour valoriser les domaines viticoles et agricoles français. Donc là aussi, je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer le risque. Mais encore une fois, moi, ce que je souhaite, c'est que, vous savez, le rôle de la Fédération nationale de l'immobilier, c'est de protéger la propriété privée et c'est de lutter contre les asymétries de concurrence. Régulation dans un domaine particulier, oui. Régulation qui ait son autonomie financière et qui ne se nourrisse pas de la transaction, ça me semble indispensable. À défaut, je pense qu'on n'est plus dans un cadre normal.
Quand on fait une transaction immobilière sur un bien foncier, il faut être titulaire d'une carte professionnelle, me semble-t-il.
Quand vous faites une transaction immobilière avec des honoraires, effectivement, sur un bien immobilier, vous devez être titulaire d'une carte professionnelle. Mais la SAFER est habilitée aujourd'hui, de par la loi, à faire des transactions. Elle se pose avec un droit de préemption. Elle seule a un droit de préemption. Elle seule a un droit en plus de démembrement. Et en réalité, on est avec quelque chose qui est à la fois... un petit peu hors sol en termes de droit, qui se justifiaient par des prérogatives d'intérêt général qui sont aujourd'hui moins évidentes et qui, à mes yeux, ne sauraient justifier finalement le fait d'être agent immobilier. Imagine-toi un instant un titulaire de droit de préemption comme une municipalité monter une agence immobilière et imposer à l'aune de ce droit de préemption une exonération de droit d'enregistrement.
C'est clairement une asymétrie de concurrence. Est-ce que la SAFER perçoit des honoraires ?
Oui.
Donc, elle a un rôle d'agent immobilier.
Oui.
On est d'accord. OK, on comprend tout à fait le sujet. Alors, on va suivre scrupuleusement cet effort. Le partenariat avec l'Union nationale des propriétaires immobiliers, elle est faite dans le but de quoi ? De réunir une voix, de peser dans le débat public ? C'est quoi ?
Non, je crois que quand vous regardez les signataires, il y a une alliance sur la défense de la propriété privée en France.
Est-ce que ça veut dire que l'UNPI aussi défend les intérêts, entre guillemets, corporatistes des agents immobiliers qui disposent de l'excellence professionnelle et de l'intermédiation ?
Je pense que oui, mais ce que je pense que l'UNPI défend, c'est la liberté d'entreprendre et surtout la liberté en tant que propriétaire de pouvoir disposer de son bien. Et c'est pour ça qu'elle a rejoint ce mouvement. C'est-à-dire que, vous savez, on peut ne pas avoir la même vision avec l'UNPI sur toute chose, mais je pense qu'il y a un point fondamental qui nous rassemble, les signataires, c'est la propriété privée. Il ne s'agit pas d'en avoir une vision archaïque et rétrograde.
C'est la propriété privée, Jean-Marc Thorollon, ou c'est le droit de propriété que vous
voulez ? Non, c'est le droit de propriété.
En fait, vous voulez sauvegarder le droit de propriété. Ouais. Effectivement, alors, vous voyez à quoi je fais écho. Je fais écho notamment avec le bail réel solidaire, finalement, où on glisse du droit de la propriété vers l'amphithéose. Hein, c'est le cas à Paris, notamment, avec les annonces de la maire Hidalgo. On en reparlera, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez, très franchement, surtout pour ceux qui nous écoutent, que quelque part, notre droit de propriété qui est inscrit dans la Constitution et qui est d'ailleurs la base même de notre révolution, je vous rappelle qu'au début, en 1791, c'était liberté, égalité, propriété, devenue ensuite fraternité. Est-ce que ça veut dire qu'on menace, bon, on ne va pas dire que c'est franco-français, mais est-ce que le droit de propriété à la française est menacé, selon vous ?
Moi, je pense qu'il faut toujours être très vigilant.
Certains le disent. Hein,
oui.
Moi,
je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Regardez quand même, par petites étapes, l'encadrement des loyers.
Alors voilà, je faisais allusion à ça.
L'encadrement des loyers, l'interdiction de louer.
Le plafonnement des honoraires de location.
Le plafonnement. Voilà. Alors ça, c'est l'activité, c'est la liberté d'entreprendre.
D'accord.
Mais prenons l'encadrement des loyers, prenons le permis de louer.
Le permis de louer.
Prenons par exemple l'interdiction de louer liée à une performance énergétique insuffisante. Prenons en exemple également, tout ce qui a trait, tout le discours qui a trait à la plus-value liée à l'investissement public dont on voudrait que les propriétaires en restituent une partie, qu'on a pu connaître dans le passé. La fiscalité peut être confiscatoire. Donc, effectivement, la notion de propriété, il faut être extrêmement vigilant. Vous savez, moi, je suis toujours étonné quand parfois j'ai quelques débats avec des hommes et des femmes politiques et qui disent toujours le sacro-saint droit de propriété. Comme si c'était finalement un obstacle à une bonne politique du logement. Moi, je pense que le droit de propriété, c'est quand même d'abord, ne l'oublions pas, un rempart contre la puissance publique. Être propriétaire, c'est dire à l'État et à la puissance... Et on l'oublie souvent, ça. C'est dire à l'État et à la puissance publique, vous restez à ma porte, sauf si vous avez les instruments juridiques pour rentrer. N'oubliez jamais ça, parce que le droit de propriété, c'était d'abord le fait de le conquérir par rapport à un super pouvoir, qui était un super pouvoir royal ou du seigneur. Et quand on a conquis le droit de propriété en 1789, même si certains y ont vu plutôt un droit de propriété conquis par une certaine puissance économique, au dépend d'une puissance économique,
classe sociale,
que politique, voilà. Mais il en demeure pas moins que voilà, être chez soi, c'est être protégé de la puissance publique. C'est une forme de sûreté aussi.
On suivra scrupuleusement ce dossier.
En tout cas, c'est l'esprit de 1789.
Voilà. On a un deuxième sujet qui est un sujet extrêmement important. Il y a une quinzaine de jours, les parlementaires ont examiné le volet de la loi climat-résilience qui a fait couler beaucoup d'encre, une loi pléthorique. Qui va battre des records d'amendements comme c'est jamais permis, 20 articles sur le volet logement, de l'article 39 à l'article 58. Il y a deux articles qui grincent un peu pour la Fédération, on peut le dire. C'est l'article 42 et l'article 44. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que là, Jean-Marc Torollion, ne voyons-nous pas finalement aussi une tentative peut-être jacobine d'essayer de renier vos marges de manœuvre dans votre corporation, dans vos métiers?
Enfin, je dirais pas ça. Je pense que reposons bien le contexte sur le logement au fond. L'objectif, c'est la rénovation énergétique d'un parc. L'objectif, c'est d'enclencher le mouvement de cette rénovation. Nous avons un enjeu en termes de copropriété, c'est la restauration du plan pluriannuel de travaux avec les audits qui y sont associés et le fonds travaux qui y est associé. Cette ambition, nous l'avons toujours partagée dans le cadre des ordonnances copropriété. Le Conseil d'État l'avait retoquée, nous y avons retravaillé et il y a un certain nombre de dispositions là qui nous conviennent. À côté de ça, il y a l'interdiction de louer les appartements E, oui. En 2034. Logements E en 2034.
On commence par les lettres F, G, on suit par E, mais si on enlève la lettre E, on enlève un gros tiers du parc locatif.
Alors,
c'est réaliste ou pas ?
C'est là où je suis en désaccord avec ce gouvernement pour la raison suivante. L'étude d'impact qui a été présentée au Parlement, elle a été présentée uniquement sur le vote de l'interdiction des logements F et G, et la conséquence économique si demain ils passaient tous en E. Il n'y a pas eu d'étude d'impact, quoi qu'on en dise, sur ce qui a été voté. Or, comme vous le soulignez, Sylvain, ça concerne 1 800 000 logements supplémentaires dans le parc privé locatif. C'est-à-dire que sur les 7 millions, on en a 3,5 millions aujourd'hui qui potentiellement, d'ici 13 ans, ne sont plus louables.
Et seront retirés de la carte.
Seraient retirés. Et par ailleurs, au-delà de ça, parce que l'erreur est de toujours circonscrire le raisonnement par rapport au parc privé locatif, mais potentiellement, c'est en réalité 35% du parc privé français, et là je m'adresse aux propriétaires, qui demain vont perdre une valeur, qui est la valeur de la possibilité de louer, ce que j'appelle le fructus, c'est-à-dire que j'ai un logement E, demain je suis muté pour des raisons professionnelles, je mets ce logement en location, il est E, je ne peux plus le mettre en location. J'ai besoin de financer...
Sauf à le rénover.
Sauf à le sortir de son classement. J'ai besoin d'aller de financer la maison de retraite d'un parent. Ça, c'est très fréquent. Je mets le logement en location. Il est E, je ne peux pas le faire.
Absolument.
Et donc, 460 000 logements à rénover par an d'ici 13 ans, au minimum, la filière n'y arrivera pas. Donc, on se fixe en fait un objectif en 2034 dont on n'a pas fixé l'étude d'impact. Et dont par ailleurs, on sait pertinemment qu'on ne va pas l'atteindre. Alors, c'est délicat parce que l'objectif, nous le partageons. L'objectif d'intérêt général, nous le partageons. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, on ne fait pas reposer que sur le parc privé locatif, et en particulier le parc privé locatif qui représente 50% des logements situés majoritairement en centre-ville, hein, dans nos centres-villes, et on ne leur fait pas reposer cette obligation sans avoir mesuré les impacts.
Est-ce que vous voulez dire, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous voulez dire qu'il y a une absence, encore une fois, de concertation avec les professionnels, à la fois sur l'étude d'impact, mais aussi sur la réalité des chiffres. Retirer un tiers du marché locatif, quand on sait que le logement neuf est en berne et qu'il y a une pression d'accès au logement qui est sans précédent dans notre époque, est-ce que vous pensez que quelque part, il y a peut-être une espèce de grain de sable dans la roue politique aujourd'hui du logement ?
Oui, moi je pense...
Disons les choses comme elles sont.
Oui, oui, on m'a rétorqué dans un débat, Michael Legal me dit, ça a été voté à l'unanimité. Mais ce n'est pas la première fois que les députés, dans l'euphorie d'un hémicycle, votent à l'unanimité une disposition qui met la France dans la rue, comme exemple les portails pour...
Absolument. Vous vous êtes adressé à Emmanuel Wargon, vous êtes adressé à Barbara Pompili, vous vous êtes adressé à beaucoup d'intervenants. Qu'est-ce qu'ils vous répondent aujourd'hui ?
C'est la volonté de l'Assemblée nationale et ils partagent l'objectif. Moi, je leur dis, il faut retarder cette affaire de 2034 à l'aune de l'expérience déjà des F et G d'ici 2028. J'ai une approche modérée. J'ai une approche modérée, mais parce que je voudrais amener. Je l'espère que le débat va continuer auprès du Sénat. On va être audité la semaine prochaine par la commission adéquate du Sénat, par Dominique Sasson-Estrosi. Mais j'espère que le débat dans la navette parlementaire va amener de la modération dans ces objectifs-là qui sont pour moi inatteignables.
Dossier à suivre, bien évidemment, toujours dans votre tribune Passion Logement pour une vraie politique du logement. Encore une fois, c'est extrêmement important de pointer ces éléments-là. La loi climat et résilience, nous en reparlerons. Nous suivrons d'ailleurs aussi scrupuleusement le dossier de la SAFER, bien évidemment. Je pense qu'on a un combat de plus à mener. Vous avez un combat de plus à mener, Jean-Marc Torollion. Merci beaucoup pour cette tribune. Comme d'habitude, le podcast est disponible sur l'application de Radio Immo. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Vous likez, vous commentez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Toujours avec de la bienveillance. Au mois prochain.
Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.